Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Alexandre Benalla, l'heure du procès, accusé de violence volontaire en réunion, utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques, port d'armes non autorisées. Il encourt au plus 7 ans de prison. L'année de campagne a bel et bien commencé. Anne Hidalgo veut doubler le salaire des enseignants. Sont-ils, comme elle le dit, deux fois moins payés qu'en Allemagne et aux Pays-Bas? Nous verrons cela. Éric Zemmour, toujours pas candidat, mais désormais privé d'antenne sur CNews. Marine Le Pen faisait sa rentrée hier. Notre invité à 13h30 est le maire de Béziers, Robert Ménard. 01 45 24 7000 pour vos questions. Dans la majorité, François Bayrou et Édouard Philippe affirment être pleinement derrière Emmanuel Macron. Les associations ont besoin de bénévoles. Leur nombre a chuté depuis la pandémie. La présidente du mouvement associatif, Claire Toury, veut remobiliser les troupes. Elle passe dans notre studio. À quoi ressemblent les familles françaises aujourd'hui? Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
L'INSEE dresse un portrait et une tendance de fond se confirme.
Oui, près d'une famille sur quatre est monoparentale. C'était une sur cinq il y a 10 ans. Avec des conséquences financières, 41% des enfants y vivent en dessous du seuil de pauvreté.
À tout à l'heure pour les détails. Dans le 13-14 également, l'inquiétude des humanitaires en Afghanistan. Catastrophe redoutée. Dans le vif de l'histoire, les 60 ans de la Convention de Genève pour les réfugiés. La campagne pour la troisième dose de vaccin commence dans les maisons de retraite. Le feuilleton avant la journée du patrimoine sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame. Portrait d'un beau joueur de tennis, Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open. Et puis c'est une chanson, connaissez-vous Mélocoton de Colette Magny. C'est à découvrir à 13h45. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un nom qui embarrasse l'Élysée depuis l'été 2018. Alexandre Benalla, responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne 2017, puis chargé de mission à l'Élysée. En 2018, après une journée du 1er mai marquée par des incidents en marge des manifestations, il est soupçonné d'avoir molesté un couple qui avait lancé des projectiles sur la police. Il n'était aucunement en charge du maintien de l'ordre ce jour-là. La vidéo avait été diffusée par Le Monde 2 mois plus tard. Commençait alors l'affaire Benalla et son cortège de révélations. Plus de 3 ans après, Alexandre Benalla est jugé à partir de cet après-midi pour violence volontaire en réunion, usage sans autorisation de passeport diplomatique et port d'armes. Là aussi non autorisé. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Cela doit commencer Ariane dans quelques minutes au tribunal correctionnel de Paris, quartier des Batignolles. Alexandre Benalla est-il arrivé?
Oui, Alexandre Benalla vient d'arriver à l'instant, vêtu d'un costume cravate, accompagné de son avocate. Il est entré rapidement dans cette grande salle d'audience du palais de justice, sans un mot aux nombreuses caméras qui l'attendaient. Une affaire très médiatique, une centaine de journalistes accrédités et beaucoup de volets abordés pendant les 3 semaines d'audience. A commencé effectivement par ce 1er mai 2018, Alexandre Benalla est poursuivi pour des violences volontaires sur 4 personnes, des hommes et des femmes que le chargé de mission a interpellés alors qu'il n'en avait effectivement pas le droit puisque ce jour-là, il est dans le dispositif des forces de l'ordre comme observateur, pas comme policier. L'affaire a donc éclaté par cette vidéo, tournée le 1er mai. Ensuite, c'est un peu comme la pelote que l'on dévide, d'autres dossiers ont suivi. Alexandre Benalla devra donc aussi répondre de recel d'images de vidéosurveillance, tournée également le 1er mai 2018. Il est aussi soupçonné d'avoir utilisé des passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée. Enfin, il devra s'expliquer sur ce selfie pris en 2017 après un meeting d'En Marche dans lequel on le voit brandir une arme. C'est pour ce port d'arme qu'il risque la plus lourde peine, jusqu'à 7 ans de détention.
Ariane Grissel en direct du tribunal pour France Inter avec Gilles Gallinaro. Le procès doit durer jusqu'au 1er octobre. Et en cette année électorale, chaque événement prendra un relief particulier. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle et ces dernières heures, de nouveaux jalons importants ont été posés. Éric Zemmour, déjà en promotion pour son livre qui sort jeudi, Figaro Magazine vendredi dernier, France 2 samedi soir, CNews ce matin, mais sur CNews justement, cette fois ça y est, il doit quitter l'antenne. Le CSA avait demandé la semaine dernière que le temps de parole de Zemmour soit décompté. La chaîne en a tiré ce matin les conséquences. Alexandra Hacoun, il ne peut plus être à l'image tous les soirs.
Oui, une décision difficile pour la chaîne qui, dans un communiqué envoyé ce matin à toutes les rédactions, précise que c'est à regret qu'elle se sépare d'Éric Zemmour car cette décision prive, je cite, des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur. Des millions, peut-être pas, face à l'info, l'émission à laquelle participe Éric Zemmour réunit tous les soirs en moyenne 700 000 téléspectateurs. Le fait est que la chaîne estime ne pas avoir eu d'autre choix. Éric Zemmour non plus. Il est venu en direct chez Pascal Pro ce matin s'en expliquer.
Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement. Et après mûre réflexion pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Vous savez, quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs. Donc c'est ce que je vais faire et j'ai vraiment beaucoup de vagues à l'âme ce matin.
Côté CSA, pas de réaction. Les sages sont en audition depuis ce matin, non disponibles. Maintenant, le rôle du CSA est de faire respecter le pluralisme pendant et hors période électorale. Il n'a jamais demandé à CNews de retirer Éric Zemmour de l'antenne, mais de le considérer comme une personnalité politique et à ce titre de comptabiliser son temps de parole. Qu'il soit candidat ou pas, n'a à la limite rien à voir. En revanche, celui qui promeut une doctrine politique, et c'est bien le cas d'Éric Zemmour, ne peut plus être considéré comme un simple chroniqueur. Il devrait être remplacé dès ce soir par la journaliste de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, déjà bien connue des téléspectateurs de CNews.
Hier, Marine Le Pen faisait sa rentrée à Fréjus. Le Pen plus Zemmour, les deux candidatures pourraient-elles cohabiter? Robert Ménard, le maire de Béziers, sera notre invité à 13h30, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. À gauche, Anne Hidalgo est officiellement candidate depuis hier avec cette proposition très critiquée, doublée au fil du quinquennat, le salaire des enseignants. Promesse populiste, dit Rachida Dati à droite. Même les plus radicaux des responsables syndicaux ne le demandent pas, ajoute l'écologiste Yannick Jadot. Ça coûterait en cumulé 150 milliards d'euros à la fin du quinquennat, estime le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Invité de France Inter ce matin, voici la réponse d'Anne Hidalgo.
Aujourd'hui, en France, le salaire d'un prof, en début de carrière comme en fin de carrière, est deux fois moins élevé que celui qu'il pourrait avoir en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ça n'est pas normal. Il y a des fonctions essentielles dans la société. Celle de l'éducation et celle de la santé. Ce sont deux piliers. Et on maltraite les gens qui sont chargés de ces missions essentielles.
Bonjour Juliette Jem.
Bonjour.
Est-il exact que le salaire d'un professeur en France est deux fois moins élevé qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas?
Eh bien, pas exactement. C'est vrai en début et en milieu de carrière par rapport à l'Allemagne. Selon les chiffres de l'OCDE, un enseignant en France au collège gagne en moyenne 2000 euros bruts par mois quand il débute et 2400 euros bruts en milieu de carrière. C'est à chaque fois deux fois moins qu'un professeur allemand. En revanche, l'écart se resserre en fin de carrière. Éric Charbonnier est expert à l'OCDE sur les questions d'éducation.
En fin de carrière, c'est pas du tout le cas, où nos enseignants gagnent toujours moins qu'en Allemagne, mais à peu près 50% de moins. Pour les Pays-Bas, l'écart est beaucoup plus faible. Un enseignant aux Pays-Bas gagne à peu près deux tiers de plus qu'un enseignant français en début et en milieu de carrière. Et là encore, l'écart descend à 50% en fin de carrière. Donc il y a des écarts qui sont très nets, mais pas forcément aussi élevés qu'a pu le déclarer Anne Hidalgo.
Alors il est toujours difficile de comparer les salaires bruts entre États européens car les professeurs ne travaillent pas le même nombre d'heures. Par exemple, les enseignants allemands passent plus de temps dans l'école avec leurs élèves. Mais la France reste toutefois en bas du classement des pays d'Europe de l'Ouest pour le salaire des enseignants. En moyenne, un professeur français avec 15 ans d'expérience gagne 20% de moins que ses homologues européens.
Merci pour ces précisions. On peut réécouter l'intégralité de l'interview d'Anne Hidalgo ce matin sur France Inter, sur franceinter.fr. Hier, c'est François Bayrou qui était l'invité de notre radio. Et c'est l'autre jalon de ces dernières heures dans cette campagne. Au centre droit, deux personnalités clés du quinquennat réaffirment leur soutien total à Emmanuel Macron, autour duquel l'activisme est déjà important. Yael Gauz, il s'agit de François Bayrou donc, et d'Édouard Philippe.
Après l'affiche, après le tract tiré à 1 million d'exemplaires, place au ralliement de poids et très tôt dans cette campagne. Deux historiques de l'épopée Macron affichent leur soutien total à cette future candidature. Édouard Philippe sort définitivement de l'ambiguïté, il était hier soir sur TF1.
Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Parler de 2027, c'est à la fois déplacé et absurde. Si, comme je l'espère, le président de la République est élu, il aura besoin demain une nouvelle majorité.
Une majorité renouvelée, 2022-2027, c'est déjà ce qui se joue en coulisses. Dans la future maison commune, ce parti démocrate encore virtuel dont tout le monde parle, chacun se cherche une place centrale pour François Bayrou.
Ça n'est pas un parti pour un homme. Je crois aux tendances profondes de la société française, de la démocratie dans le monde. C'est donc une organisation politique pour des générations.
À court terme, donc, deux leaders, l'un du centre, l'autre issu de la droite, qui mettront toutes leurs forces au service d'Emmanuel Macron pour 2022. À l'Élysée, on salue cette cohérence, cette loyauté. Mais François Bayrou et Édouard Philippe posent aussi des jalons pour après. La survie du centre pour Bayrou, l'hypothèse d'une relève, d'une candidature à organiser pour Philippe en 2027.
Chez les écologistes, il y aura largement plus de 100 000 inscrits pour la primaire, dont le premier tour commence jeudi. 122 670 exactement, selon le service politique de France Inter, qui vient d'obtenir les chiffres. D'autres chiffres, le cap des 50 millions de vaccinés, toujours pas atteint en France. Il manque près de 700 000 personnes. Mais l'opération troisième dose commence aujourd'hui dans les EHPAD. Autre rendez-vous important de la semaine, mercredi, le vaccin obligatoire pour les fonctionnaires des hôpitaux. Plus de 95% ont reçu au moins une dose, selon la ministre de la fonction publique. À Paris, les proportions sont même un peu supérieures, selon Martin Hirsch, le patron de la PHP, qui faisait le point ce matin sur France Info.
L'immense majorité l'ont fait. Le 12 juillet, qui est la date de l'annonce, on dénombrait à peu près 70% de nos équipes, toutes confondues, hein, c'est les soignants, mais c'est tous ceux qui font tourner ou qui travaillent à l'hôpital, 70% avaient fait au moins une première dose. Aujourd'hui, on est au-dessus de 95%, 96, 97%. On sait qu'on a quelque chose entre, quelque part, entre 1, 2% de personnes qui sont peut-être pas du tout vaccinées, qui le seront peut-être, qui auront peut-être fait leur première dose dans les 48
heures.
Pour eux,
il se passe quoi après demain matin ?
Ils ne pourront pas travailler. Ils sont suspendus et ils ne peuvent pas percevoir de salaire. Et suspension jusqu'au moment où on est en règle pour pouvoir travailler.
Martin Hirsch avec Marc Fauvel et Salia Brakia ce matin à l'école, plus de 10 jours après la rentrée. 3000 classes sont fermées à cause du Covid, mais cela représente 0,5% des classes du pays, précise le ministre de l'Éducation. Du côté du vaccin, une très mauvaise nouvelle pour le laboratoire franco-autrichien Valneva. Le gouvernement britannique résilie son contrat avec lui. Véronique Julien, il portait sur 100 millions de doses.
Oui, et ce contrat résilié, c'est un peu la catastrophe hein, pour la biotech nantaise, car c'était à ce jour sa seule commande faite. Les négociations patinent en effet avec l'Europe depuis des mois. Au total, c'est donc un contrat à plus d'un milliard d'euros qui s'envole. La Grande-Bretagne avait commandé en effet 100 millions de doses avec une option pour des millions de doses supplémentaires. Le contrat incluait cette éventuelle résiliation. Alors est-ce que Londres a eu les yeux plus gros que le ventre avec des commandes excessives et voudrait faire machine arrière ? Dans son communiqué, Valneva explique que la Grande-Bretagne lui reproche un manquement à ses obligations, ce que la biotech nantaise conteste vigoureusement, mais le mal est fait. Le titre a plongé en bourse de près de 40% tout à l'heure. Il faut savoir que ce vaccin Valneva est un vaccin à virus inactivé. C'est une technique assez classique. On injecte un virus mort et donc inoffensif pour générer la défense. Les résultats des études de phase 1 et 2 ont été communiqués en avril dernier. Ils étaient probants. La phase 3 a été lancée dans la foulée sur 4000 personnes. Avec des résultats attendus dans les semaines qui viennent, la biotech tablait sur une efficacité de son vaccin supérieure à 80%. Elle avait d'ailleurs soumis sa demande d'autorisation de mise sur le marché aux autorités sanitaires britanniques il y a tout juste 3 semaines.
Et voici une conséquence de la pandémie. Elle affecte l'activité des associations depuis 1 an et demi. Elle manque sérieusement désormais de bénévoles et le monde associatif bat le rappel aujourd'hui. Bonjour Claire Toury.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de ce mouvement associatif. Est-ce qu'on on peut donner quelques chiffres pour mesurer le manque de bénévoles en cet automne 2021 ?
Alors je vais surtout vous donner des chiffres sur la baisse des adhésions parce que c'est ça la campagne qu'on lance aujourd'hui. Mon association Je l'adore, j'y adhère. C'est une campagne qu'on lance, donc le mouvement associatif Exopé avec le soutien de la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Ce qu'on voit, c'est que les associations, 55% d'entre elles craignent de ne pas retrouver une bonne partie de leurs adhérents en cette rentrée. Il y a des conséquences aussi assez importantes sur les cotisations, puisque 54% des associations, de la même façon, déclarent avoir perdu des ressources liées aux cotisations en conséquence de la crise sanitaire. Donc on bat le rappel parce qu'il est temps qu'adhérents et associations se retrouvent.
L'inquiétude majeure porte sur les bras ou sur les caisses, pour dire les choses très simplement ?
Sur les deux.
Pour être honnête,
c'est sur les deux. Alors sur les caisses, bien sûr, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les associations vivent beaucoup des cotisations, plus que des financements publics. Ça, c'est un élément important. Mais aussi sur les bras. Enfin, les associations, il y en a partout, hein, on le sait, partout en France, dans toutes les villes, dans tous les villages de France. Les associations, c'est 50% des crèches, par exemple. C'est plus de 2000 festivals chaque année, c'est 80% des établissements culturels. Enfin, voilà, c'est extrêmement important, le monde associatif. Et donc, si on ne retrouve pas nos adhérents, si on ne retrouve pas nos bénévoles, on risque de voir un monde associatif s'affaiblir et on veut absolument éviter ça parce qu'on sait à quel point elles sont indispensables.
Il y a des secteurs particulièrement touchés, des publics, des régions ?
Alors, les secteurs classiques, oui, il y a les secteurs sportifs, le secteur culturel, le secteur de l'éducation populaire aussi un petit peu. Mais voilà, il y a un gros travail de mobilisation qui est fait. Je lisais un journal du Perche qui montrait que les associations sportives, l'année dernière, le club de foot avait 240 adhérents, 110 en cette rentrée, donc il y a une vraie inquiétude. Par contre, faut pas tomber dans le misérabilisme. Les associations ont l'habitude de se mobiliser, de se réinventer. Et donc, ce club de foot a tout de suite trouvé un moyen d'aller travailler avec les écoles pour sensibiliser les enfants au foot, les filles comme les garçons. Voilà, il y a des des réponses qui sont proposées.
Alors, quelle réponse justement à cette baisse du nombre d'adhérents? Comment remobiliser?
Alors, c'est l'objet de cette campagne. Donc, mon association Je l'adore, j'y adhère, comme je vous le disais.
C'est un site internet pour être très concret.
Absolument. Il y a un site internet qui sort cet après-midi. Donc, assojadorejadhere.fr.
Ok.
Voilà. Donc, sur ce site, vous allez retrouver des chiffres clés sur la vie associative. Je vous en ai donné quelques-uns.
Oui.
Mais vous allez aussi retrouver dataassociation.gouv.fr qui va permettre aux citoyennes, aux citoyens de trouver des associations autour de chez elles, de chez eux, et donc voilà, d'adhérer, de participer, et surtout de prendre conscience que les associations, elles sont partout, elles occupent tous les terrains, tous les secteurs, parfois on n'en a pas conscience, et donc on a vraiment besoin d'une remobilisation très forte de la part des Françaises, des Français, pour le secteur associatif.
Est-ce qu'il faut un pass sanitaire pour se réunir dans les locaux d'associations?
Ça dépend pourquoi. Si vous faites une réunion, non. Par contre, si jamais vous organisez un événement sportif, oui, culturel avec du public, oui, c'est les mêmes règles qu'ailleurs.
Bon, on reprend l'adresse assojadorejadhere.fr.
Absolument.
Ce sera en place cet après-midi.
Tout à fait. Enfin, vous pouvez accéder au site tout de suite. Mais
bon,
ça sera
alors vous pouvez y aller tout de suite et aller voir notamment près de chez vous ce qui est possible. Merci beaucoup, Claire Truy, d'être passée dans les studios de France Inter. À quoi ressemblent aujourd'hui les familles françaises dont beaucoup s'engagent dans ces associations? Hélène Chevalier, ne riez pas quand je bafouille, l'INSEE dresse aujourd'hui un portrait robot toujours intéressant. On va relever les points saillants. D'abord, pour les familles, une tendance de fond se confirme.
Oui, sur les 8 millions de foyers hébergeant au moins un mineur, près d'un sur quatre est aujourd'hui une famille composée d'un seul parent. C'était un sur cinq il y a 10 ans. Conséquence, les familles, entre guillemets, traditionnel, un couple avec ses enfants baisse d'autant et passe de 70% en 2011 à 67% en 2020.
Deuxième point, ce qui ne bouge pas, c'est le pourcentage des familles recomposées.
Oui, les foyers avec au moins un enfant issu d'une précédente union sont figés à 9%. Stagnation également pour les familles nombreuses. L'effritement de la natalité ces dernières années ne se fait pas encore ressentir. Une sur cinq est encore composée de 3 enfants ou plus.
Et dernier point, la situation financière des familles, évidemment, ce que vous nous dites a des conséquences.
Oui, les foyers de plus de 4 enfants, mais surtout les familles monoparentales, sont celles qui sont les plus touchées par la pauvreté. 41% des mineurs qui habitent avec un seul de leurs parents vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus que pour l'ensemble des familles. Et ce sont surtout les enfants vivant avec leur mère qui sont les plus touchés. Les mamans solo sont proportionnellement moins nombreuses à être propriétaires ou cadres et plus souvent au chômage que les hommes dans la même situation.
Merci Hélène Chevalier. L'actualité du train, si vous aviez pris l'habitude de vous faire rembourser ou d'annuler le billet. Et au tout dernier moment à la SNCF, c'est fini. Depuis hier soir, on repasse à J-3. Concernant le fret ferroviaire, le gouvernement prolonge jusqu'en 2024 une aide annuelle de 170 millions d'euros. La deuxième semaine commence au procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
En direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité, la semaine qui s'ouvre, Charlotte, sera consacrée à l'examen des faits.
Oui, l'audience a repris avec la fin de la lecture du rapport du président pour cause de retard vendredi dernier, malgré une audience qui s'est achevée vers 23h30. Aujourd'hui, c'est à nouveau une longue et dense journée qui s'annonce, d'autant qu'on rentre dans le dur avec la présentation par les enquêteurs des faits de cette tragique soirée du 13 novembre 2015 jusqu'à l'arrestation en mars 2016 de Salah Abdeslam dans son quartier de Molenbeek. Semaine probablement douloureuse donc pour les parties civiles, les quelques-unes présentes dans la salle et les autres bien plus nombreuses qui suivent l'audience à distance via la web radio qu'il aurait dédié. Aujourd'hui, elles pourront ainsi entendre l'enquêteur de la sous-direction antiterroriste qui a coordonné cette enquête tentaculaire en France. Demain, ce sera le volet belge avec la juge d'instruction Isabelle Panou. Puis le détail, scène d'attentat par scène d'attentat avec, a rappelé le président en début d'audience, la diffusion de vidéos et photos. Lors du précédent procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher, cette projection des images de scènes de crimes, de corps, des personnes assassinées avait causé un choc violent dans la salle d'audience. Cette fois-ci, le président Jean-Louis Périès a prévu de prendre le maximum de précautions en amont.
Charlotte Piré en direct du Palais de Justice avec Geoffrey Marianne pour France Inter. Le procès à suivre sur France Inter, franceinter.fr et sur Twitter via les comptes de Charlotte Piré et Sophie Parmentier. En Afghanistan, un premier vol commercial a atterri ce matin à Kaboul, compagnie publique pakistanaise provenance Islamabad. Plus de membres d'équipage que de passagers. Il devrait faire le trajet retour un peu plus plein, des passagers américains, pakistanais ou afghans ayant travaillé avec des organisations internationales et qui veulent quitter leur pays. Oui, les femmes pourront étudier à l'université. mais séparée des hommes, précisent les talibans au pouvoir depuis un peu moins d'un mois. Inquiétude des universités, comment matériellement appliquer cette non-mixité? Inquiétude de l'UNESCO aussi à l'ONU, pour qui les immenses progrès en matière d'éducation en Afghanistan depuis 20 ans sont menacés. Dans les heures qui viennent, une réunion sur l'aide d'urgence à l'Afghanistan doit s'ouvrir à Genève sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies ont lancé un appel de fonds de plus de 600 millions de dollars pour empêcher une catastrophe humanitaire imminente dans le pays. Wilson Fage, vous qui êtes en Afghanistan pour France Inter, la plupart des ONG ont suspendu leur activité. Leurs salariés afghans se sentent menacés.
Soussan travaille depuis 17 ans à Kaboul pour une organisation internationale active dans l'éducation et la formation professionnelle. Mais désormais, leurs bureaux sont vides et cette humanitaire afghane craint le pire.
Le fait que la plupart des ONG aient suspendu leur activité suite à l'arrivée des talibans est très inquiétant, surtout que énormément de gens dépendent de cette aide. Par exemple, beaucoup d'Afghans ont entrepris des études ces 20 dernières années, mais maintenant des ONG comme la nôtre sont fermées. Personnellement, je me sens déprimée depuis l'arrivée des talibans et je me sens en danger.
Les Afghans qui ont travaillé avec des organisations internationales craignent d'être pris pour cible par les talibans. C'est le cas de cet humanitaire qui souhaite rester anonyme.
J'ai travaillé avec une ONG française pendant 15 ans et pour cette raison, nous avons été attaqués et mon père a été assassiné. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort et j'ai été contrainte de m'enfermer chez moi. On m'a un jour dit que, en tant que femme, j'avais le choix entre rester à la maison ou finir dans une tombe.
Les Nations Unies craignent aujourd'hui que les talibans interdisent aux femmes de continuer à travailler avec des organisations internationales, ce qui pourrait mettre en péril les programmes humanitaires destinés aux filles et aux femmes du pays. Kaboul, Wilson Fache, France Inter.
Parmi les pays inquiets depuis le 15 août de la prise de pouvoir des talibans, l'Iran voisin, qui ne se satisfait pas du gouvernement présenté la semaine dernière à Kaboul, des talibans de la vieille garde. Ce n'est pas un gouvernement représentatif de tous les Afghans, estime Téhéran. Un nouveau pouvoir à Kaboul, un nouveau pouvoir aux États-Unis aussi depuis janvier, après les années Trump et la sortie des USA de l'accord nucléaire iranien. Ce nouveau contexte peut-il inciter l'Iran à être plus souple dans les négociations sur le nucléaire avec les Occidentaux, mais aussi la Chine et la Russie? En tout cas, bonjour Christian Chéneau.
Bonjour Bruno.
En tout cas, un accord vient d'être trouvé avec l'Agence de l'énergie atomique pour donner du temps à la diplomatie.
Oui, Téhéran vient d'autoriser les inspecteurs de l'AIEA à reprendre la maintenance des caméras de surveillance de ces sites nucléaires et à remplacer leurs disques durs. Alors c'est un geste tactique de la part de l'Iran qui joue sur les nerfs des Occidentaux, car sur le fond, les négociations sur le nucléaire sont interrompues depuis le mois de juin dernier et l'élection du président ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Les Iraniens ont changé leur équipe de négociateurs et l'expérimenté patron de l'organisation de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a été remplacé par un néophyte. De leur côté, les Occidentaux poussent à une reprise rapide des pourparlers de Vienne, car l'Iran continue de développer son programme nucléaire. Ainsi, son stock d'uranium enrichi à 60% est passé de 2,4 à 10 kilos. Paris et Washington voudraient inclure dans les négociations les questions des missiles balistiques et de l'influence régionale iranienne qu'ils jugent déstabilisatrice. Pas question, rétorque l'Iran, qui veut s'en tenir uniquement au dossier nucléaire et reprendre les discussions de Vienne là où elles s'étaient arrêtées en juin. Téhéran se donne encore quelques mois pour trouver un accord, sinon ce sera le grand saut dans l'inconnu.
Après plus d'un an, le gouvernement libanais, le nouveau gouvernement, s'est réuni pour la première fois ce matin. Il doit affronter une crise économique sans précédent dans le pays. Federer, 9e mondial, et depuis ce matin, Rafael Nadal en dehors du top 5, 6e au classement ATP. Petit à petit, la page des trois monstres est en train de se tourner dans le tennis. Reste le 3e, Djokovic, toujours numéro 1 et largement, mais il a échoué hier à décrocher le Graal, le grand chelem du tennis. Les 4 plus grands tournois la même année, défaite en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev, 6-4, 6-4, 6-4. Ça aussi signe un changement d'époque. Premier tournoi du grand chelem pour le Russe, numéro 2 mondial. Portrait de ce très beau joueur avec vous, Fabrice Abgral. C'est un personnage singulier, un tennisman hors norme.
Daniil Medvedev pratique un tennis atypique, pas vraiment académique, alliant puissance et légèreté. C'est ce tennis-là qui a permis à cet escogriffe d'1m98 de remporter l'US Open.
Je suis très content, j'ai gagné le Grand Chelem, j'avais fait mon boulot. N'importe qui était en face, je voulais le faire. Donc je savais encore que moi je dois être à 300%, parce que sinon ça va pas être assez. Et donc j'avais pris dans mon avantage en disant que là, il faut que je meure sur le terrain, en essayant de gagner. C'est ce que j'ai réussi à faire.
Daniil Medvedev habite Monaco et s'entraîne près de Cannes depuis 2014. Et s'il parle si bien français, c'est parce que son coach, Gilles Servara, l'a voulu.
Vu qu'on partait souvent à l'étranger et que j'aime pas quand les gens écoutent trop, j'en ai profité pour lui parler que en français, pour pas être entendu et compris pendant les matchs, pendant les entraînements. Et c'est parti de ça, quoi, en fait.
Daniil Medvedev est un personnage complexe. Le joueur est déjanté, nerveux et grincheux. L'homme, lui, plutôt discret, charmant et poli. Et un peu gamin. C'est ce que dit Dasha, son épouse.
Il aime manger des bonbons, faire des bêtises, jouer dans les jeux vidéo et tout ça, donc c'est pas très sérieux.
Mais il l'est sérieux, et quand Medvedev dit qu'il veut être numéro un mondial, il vaut mieux le croire.
Allez, avant la météo, un tour par Besançon, où se tient à partir de ce soir le concours international des jeunes chefs d'orchestre. 20 se mesurent pendant 5 jours. Ils doivent mener un orchestre sur une musique imposée, 7 chefs capés dans le jury pour les évaluer. Portrait d'une des 20 qui est en lice, Anne-Louise Bourion. C'est la deuxième année qu'elle participe, dit Ilan Jaffrelot.
Elle a grandi dans une famille de mélomanes et dès toute petite, ses mains se sont agitées sur des airs de musique classique.
Vers mes 6-7 ans, dans le vide avec des baguettes magiques à paillettes.
S'en est suivie une formation de pianiste. Depuis 8 ans, elle pratique et apprend son métier de chef d'orchestre.
Pour l'instant, j'ai principalement été chef assistant et il faut le faire un certain nombre d'années. J'espère le faire encore plusieurs années parce qu'on rencontre des grands chefs d'orchestre, des musiciens extraordinaires et donc qui nous transmettent aussi beaucoup de choses.
Travailler avec Pavel Balef sur Rousselka de Dvorak l'a énormément marqué. Elle aimerait maintenant gérer elle-même cet opéra pour peut-être retrouver sa première sensation sur une estrade.
C'était Carmen, donc c'est l'ouverture de Carmen bien connue. Je fais un geste et il y a des gens qui jouent. Et c'est quelque chose d'un petit peu mystique, d'une certaine façon. Et ben, j'ai eu l'impression d'avoir 7 ans à nouveau. C'était une sensation un peu comme une évidence, tout d'un coup, voilà.
Une évidence, mais il faut encore se perfectionner.
Moi, je sais que ça avait parti il y a 2 ans un peu de ce qu'on avait relevé de ma direction, qui était que ma baguette n'était pas forcément utilisée de la bonne façon. Sans baguette, j'ai tendance à faire des très grands gestes. Et en fait, la baguette va un petit peu quand même me canaliser.
Elle aura les 2 premiers tours pour prouver au jury son évolution, pour tenter d'aller plus loin que les quarts de finale atteints il y a 2 ans.
Voilà, et pour les locaux, ça se tient au Cursal à Besançon et la finale, se tiendra place Grandvel. Dans un instant, la météo d'Élodie Calac, puis notre invité Robert Ménard.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxe par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Magnétique et fascinant. Avec Clara et le Soleil, Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, nous offre un superbe roman d'amitié. À 14 ans, Josie est livrée à elle-même. Pour lui tenir compagnie, ses parents lui offrent Clara, une amie artificielle. Lorsque Clara arrive chez la jeune fille, elle comprend qu'un secret pèse sur la famille et que Josie est en danger. Jusqu'où ira-t-elle pour la sauver ? Laissez-vous éblouir par Clara et le Soleil, une formidable leçon d'humanité, signée Kazuo Ishiguro. Un roman Gallimard.
France Inter présente
le numéro de Society spécial 11 septembre. 100 pages de récits et analyses sur l'événement qui a changé le début du siècle avec l'histoire du Falling Man ou encore de l'effroyable imposture, le premier best-seller complotiste du 21e siècle. Society est aussi parti à la rencontre du fils du commandant Massoud en Afghanistan, dresse le portrait d'un vétéran de la guerre en Irak qui a fini par envahir le Capitole et part à la rencontre des faucons de George Bush 20 ans après. Le numéro de Society spécial 11 septembre à lire en ce moment. Un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
La journée est chaude et puis dégradation par l'ouest.
Exactement, on a des températures qui montent encore cet après-midi, 20-25 degrés sur les régions voisines de la Manche, 26 degrés à Metz, à Rennes, 27 à Paris, Tours et Dijon, 29 pour Bastia, 30 degrés à Clermont-Ferrand, à Grenoble ou à Avignon, 32 à Biarritz et jusqu'à 33 à Montauban. Alors tout ça sous un ciel encore bien ensoleillé, mais ça se voile par l'ouest, les nuages vont devenir très épais de la Bretagne au sud-ouest avec d'abord quelques averses, des orages sur les Pyrénées et l'Aquitaine, et puis sur toutes les régions de l'ouest ce soir et cette nuit avec de la grêle et des rafales de vent possibles.
Élodie, est-ce qu'on a une idée de la semaine ? À quoi ressemblera-t-elle ?
Eh bien, on va surveiller les orages. Demain, ce temps orageux va traverser le pays. On surveillera particulièrement le Languedoc, les Cévennes et la Basse-Vallée du Rhône, où les pluies pourront être durables et soutenues. On aura encore une journée bien orageuse pour la journée de mercredi. Jeudi, ce sont les régions du sud qui seront concernées par ces averses orageuses, alors qu'au nord, on retrouvera un temps plus calme.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Tout de suite, l'actualité politique. Robert Ménard, invité de France Inter.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Le maire de Béziers, Robert Ménard, publie aujourd'hui un court livre sous la forme d'une lettre à Marine Le Pen. Chère Marine, il l'appelle à s'émanciper d'une histoire, d'une culture trop souvent groupusculaire, ne pas promettre l'impossible comme la retraite à 60 ans et choisir un entourage renouvelé. Dans ce court texte, il est évidemment question d'Éric Zemmour également. 01 45 24 7000 pour vos questions à l'auteur de Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner. Il y a aussi l'application France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Robert Ménard.
Bonjour.
Vous êtes en direct de votre mairie de Béziers et tout de suite au standard, une question de Denis pour vous. Bonjour Denis.
Oui.
Nous vous écoutons.
Allô.
Oui, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons Denis.
Oui, bonjour. Voilà, j'aimerais me poser une question simple à Monsieur Ménard. Monsieur Ménard a été élu avec le soutien du Front National, maire de Béziers. Il exprime aussi son amitié pour Éric Zemmour. Donc, dans le cas de figure d'une candidature d'Éric Zemmour, et si celui-ci réunit ses 500 signatures, la question est simple. Qui, Monsieur Ménard, soutiendrait dans ce cas de figure?
Alors, Robert Ménard, la réponse est dans votre livre, mais je vous laisse la donner vous-même. Ah, Robert Ménard, on a perdu la liaison avec Robert Ménard. Est-ce que vous êtes là?
Non. Je vous entends. J'entendais très, très mal l'auditeur, en gros, qui me demandait, dans le cas de figure, si j'ai bien compris, où il y aurait Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui je soutiendrais.
C'est exactement cela.
Voilà. Écoutez, je l'ai dit dans ce petit livre, je soutiendrai Marine Le Pen. Je suis ami avec Éric Zemmour depuis des années. On est plus que copains. Je n'ai cessé de dire, là, depuis quelques jours à Éric, tu commets une erreur, tu divises le camp national, ça va nous compliquer la vie. Et si aujourd'hui, au début, on se dit des choses gentiment avec la campagne qui passe, vous finirez par vous dire des choses très désagréables. Et c'est ce que je veux éviter, Chacun vote pour qui il veut. Mais aujourd'hui, il faut pas se diviser. C'est pour ça que j'avais demandé à Éric et à Marine de venir à Béziers pour qu'ils discutent entre eux, pour déterminer ce qu'on ne disait pas. Vous savez, ce qu'il faut pas dire, parce que ça rend les choses après impossibles, les réconciliations impossibles.
Et ça, c'en est où? C'en est où, Robert Ménard?
Chacun dise.
L'idée de cette rencontre, ça en est où, Robert Ménard? C'est complètement abandonné?
Mais écoutez, Marine Le Pen n'était pas convaincue. J'ai réussi à obtenir qu'elle me dise qu'elle viendrait dîner à Béziers. J'attends la réponse d'Éric. Il était très hésitant. J'espère qu'aujourd'hui, il va prendre sur lui d'oublier l'ego des uns et des autres et penser à ce qui est l'intérêt de la France, c'est-à-dire qu'ils discutent tous les deux ensemble.
Alors, sur Zemmour, vous dites pas pour sa candidature, pour des raisons de éviter la concurrence à l'extrême droite. Il y a aussi des raisons de fond. Vous trouvez certaines de ses propositions pas applicables?
Mais écoutez, sur un certain nombre de points, oui, je suis en désaccord avec Éric. Quand il dit, par exemple, que l'islam est incompatible avec la République, l'islamisme est incompatible avec la République, pas l'islam. Si on dit ça, qu'est-ce qu'on fait des millions de gens qui sont musulmans en France? Dans ma ville, les deux tiers des enfants dans les écoles publiques sont d'origine immigrée, pour un bon nombre d'entre eux musulmans. Je vais pas leur dire, vous avez pas votre place en France. Sur les prénoms, je trouve que c'est d'une rare maladresse. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à des gens, vous choisissez entre votre prénom et le fait d'être un bon Français. On peut s'appeler Mohamed ou Noureddine et être un excellent Français. J'en connais des tonnes dans ma ville. Mais vous savez, j'ai aussi des désaccords avec Marine Le Pen. Je pense que sur les retraites, ce qu'elle dit, la retraite à 60 ans n'a pas de sens.
Ah, vous dites pourquoi c'est un mensonge. Vous dites c'est un mensonge. On revient sur Marine Le Pen dans un instant. Encore deux questions, Robert Ménard, sur Éric Zemmour. Petit 1, est-ce que vous croyez à sa candidature? Et petit 2, le fait qu'il quitte l'antenne de CNews, est-ce que ça vous semble, la demande du CSA qui demandait le décompte du temps de parole, ça vous semble normal ou c'est de l'ordre de la censure, comme disent certains à l'extrême droite? Petit 1, est-ce que vous croyez à sa candidature?
sur sa candidature. Lui, il y croit en tout cas. C'est compliqué, il faut trouver beaucoup d'argent, je ne sais pas s'il les trouvera. Et d'autre part, barrière supplémentaire, vous le savez, il faut 500 signataires d'élus, de maires, de députés, de sénateurs, et c'est loin d'être facile. La dernière discussion...
Ah, liaison coupée avec Robert Ménard.
Que j'ai eu avec Eric, elle remonte à la semaine dernière. Allô, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, mais ça coupe quelquefois.
Attendez, je vais reprendre l'autre téléphone.
Voilà, c'est en direct, il est 13h34 sur France Inter, nous sommes avec Robert Ménard en direct de la mairie de Béziers. Donc vous disiez difficulté à obtenir les parrainages, lui y croit, difficulté sans doute à réunir le financement. Ce que je traduis, c'est que vous avez un peu de mal à croire qu'il arrivera à être candidat.
Je crois qu'il en a vraiment la volonté maintenant. Je crois même que ce qui vient d'arriver avec CNews, ça va l'inciter à accélérer les choses. Maintenant, il n'est pas aussi facile que ça de réunir, bien sûr, les signatures, de réunir l'argent. Écoutez, mais il a l'air décidé. Moi, je pense que c'est une erreur, qu'aujourd'hui, il nous était plus utile dans sa position de polémiste. Il nous a grandement aidé en faisant qu'un certain nombre de sujets qui étaient inabordables dans les grands médias le sont maintenant. Mais voilà, enfin, en même temps, s'il veut vraiment être candidat, qu'est-ce que vous voulez ? Je vais pas l'empêcher de l'être.
Alors, venons-en à Marine Le Pen et à cet ouvrage, Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner la retraite à 60 ans. Puisque vous l'abordiez spontanément, vous dites c'est un mensonge, ça n'est pas possible.
Et je pense que oui, bien sûr, personne ne peut sérieusement dire que la retraite à 60 ans, on va y revenir. Ce n'est pas vrai. Et je crois que ce qui tue la politique et ce qui tue la parole publique, ce qui fait, par exemple, qu'il y a tant de gens qui ne croient plus, les hommes politiques, les journalistes, les juges, tous ceux qui ont un peu de pouvoir, c'est quand on dit ou on promet des choses dont on sait qu'on ne les fera pas. Dire aujourd'hui, on va revenir à la retraite à 60 ans, c'est un mensonge. De la même façon que de dire aujourd'hui, on va doubler le salaire de tous les enseignants est un mensonge. D'ailleurs, j'ai vu que du côté de la maire de Madame Hidalgo, de la maire de Paris, on commençait à revenir dessus. Il ne faut pas mentir aux gens. Les gens, il ne faut pas, parce qu'on est en campagne électorale, promettre des choses dont vous, moi, n'importe quelle personne un peu sensée de bon sens se dit que ce n'est pas possible. Et cette règle, elle s'applique à tout le monde, y compris à mes amis politiques. Je déteste que les gens qui sont en gros, proche de moi, disons la droite de la droite, fassent des promesses dont ils savent pertinemment qu'elles ne tiennent pas la route et qu'ils ne les tiendront pas. Ah. Il faut, si on veut faire de la politique différemment, on commence par pas faire des promesses qu'on ne tiendra pas.
Alors Robert Ménard, dans cet ouvrage, vous écrivez notamment ceci. Si tu refuses, en vous adressant à Marine Le Pen, si tu refuses le qualificatif d'extrême droite avec raison, écrivez-vous, il n'en reste pas moins que ton parti est peuplé d'individus nostalgiques, d'un Franco pour le passé ou d'un Poutine pour le présent, les mêmes qui qualifient Emmanuel Macron de dictateur pour avoir fait voter le pass sanitaire. Elle vient de faire sa rentrée, Marine Le Pen, sur les thèmes des libertés. Et dans ce soutien aux libertés au pluriel, moi je vois un clin d'œil justement à ces gens-là qui ont manifesté tout l'été contre le pass sanitaire. Vous ne trouvez pas ?
Vous avez absolument raison. D'ailleurs, elle l'a dit explicitement hier dans le 20h de TF1. Et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Attendez, c'est pas parce qu'une mesure elle est proposée par M. Macron que c'est une mesure qui est fausse. Pardon, aujourd'hui, le pass sanitaire, moi je suis pas un fan du pass sanitaire, ça m'exaspère comme tout le monde de devoir sortir mon téléphone toutes les 5 minutes pour montrer au restaurant que je suis bien vacciné, mais c'est un moindre mal. La politique, c'est ça, on pèse le pour et le contre. Aujourd'hui, oui, il y a du contre du côté du pass sanitaire, mais en même temps, est-ce que c'est pas le seul moyen d'avoir un début de vie à peu près normal ? Je pense que oui. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis favorable. La deuxième raison, c'est que quand même, je voudrais que de temps en temps, on fasse preuve un peu de raison. Vous savez, l'obscurantisme d'un certain nombre de propos sur le pass sanitaire, je trouve ça insupportable. Et puis, je suis de ceux qui pensent que oui, il y a des progrès, et je suis émerveillé, contrairement à bien de mes amis, entre guillemets, émerveillé qu'on ait pu inventer un vaccin en moins d'un an, alors qu'on met 10 ans d'habitude. Et je suis pas suspicieux au point de croire qu'il y a toujours, vous savez, Big Pharma derrière, que c'est qu'une histoire d'argent. Je crois qu'il y a des chercheurs formidables qui font des progrès formidables, et j'aimerais de temps en temps que mes amis politiques, ils soient un tout petit peu plus optimistes.
Et sur ces sujets...
Le progrès, c'est pas un gros mot. C'est pas parce que M. Macron se définit comme un progressiste, que le progrès est un gros mot.
Sur ces sujets, Marine Le Pen entretient un certain flou. Elle n'était pas dans les manifestations anti-pass, mais elle ne s'en détache pas suffisamment de votre point de vue.
Absolument, je crois qu'aujourd'hui, même si je comprends l'exaspération d'un certain nombre de gens, vous savez, le gouvernement, et puis tous les gouvernements, pas que le nôtre, on dit tellement de bêtises, d'abord sur les masques, vous savez qu'il fallait pas porter, ensuite qu'il fallait porter, et en fait, il fallait pas les porter parce qu'on avait, en réalité, on n'en avait pas assez. Ensuite, sur les tests et tout ça, bien sûr qu'il y a eu plein de bêtises qui ont été dites, bien sûr que M. Véran, c'est quand même un spécialiste mondial de l'arrogance, et c'est un peu insupportable. Reste qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les propositions concernant le pass sanitaire, encore une fois, c'est un juste milieu. C'est la meilleure façon, en attendant que la vaccination de masse, et j'y prends ma part comme maire, que la vaccination de masse nous permette de retrouver une vie normale. Et dire ça, ça fait pas de moi un allié de M. Macron. Je le critique sur mille autres choses. M. Macron, il a dit, par exemple, sur l'immigration, pour prendre un thème cher à Marine Le Pen et qui m'est cher aussi, il a dit plein de bêtises, mais sur le pass sanitaire, c'est lui qui a raison. Ça me gêne pas de dire qu'il a raison.
Tiens, voilà. À propos d'immigration, Robert Ménard, vous appelez Marine Le Pen à parler d'immigration choisie et non pas stoppée. Sur un autre sujet, vous dites oui, il y a une Europe indispensable à notre avenir et à notre indépendance. Je me suis dit en vous lisant que vous voulez d'une Marine Le Pen qui soit au fond LR, l'aile droite d'LR.
Non, je suis pour des compromis. Les compromis, c'est pas des trahisons, c'est faire preuve de sagesse. Aujourd'hui, la question que je me pose, vous savez, elle est toute bête, elle est toute idiote, c'est comment se fait-il que nos idées, y compris sur l'immigration, vous y faites allusion. En gros, on dit qu'il y a trop d'immigration. Moi, je dis pas qu'il faut réduire à zéro l'immigration, là encore, ça n'a pas de sens. Mais il faut réduire de façon drastique l'immigration. Comment se fait-il que sur une idée comme ça, sur la sécurité, un besoin de plus important de sécurité, sur l'école ou l'autorité, il faut qu'elle soit respectée tout. Comment se fait-il que sur ces idées-là, nous sommes majoritaires. Au fond, les Français sont largement majoritaires, souvent à 70%, et qu'en même temps, les gens ont peur de voter pour nous, et en l'occurrence, à la prochaine présidentielle, continuent à avoir peur de voter pour Marine Le Pen. C'est sur ça qu'il faut s'interroger.
Et votre réponse, est-ce parce qu'il y a eu des propositions totalement irréalistes, du type sortie de l'euro, voire sortie de l'Union européenne, ou parce que le discours est radical et parfois raciste au Rassemblement national ?
Non, attendez, c'est deux choses. Sur l'Europe et la sortie de l'Europe et de l'euro, pardon, j'étais un de ceux qui a plaidé depuis des années contre ça, c'était d'une absurdité totale, et Marine Le Pen a changé, vous l'avez remarqué, elle change aussi. Sur un certain nombre de propositions irréalistes, on l'a vu sur les 60 ans. Aujourd'hui, dire que Marine Le Pen, elle tient des propos racistes, c'est dégueulasse, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez reprocher à son père d'avoir eu des attitudes complaisantes avec l'antisémitisme. J'applaudis deux fois ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, dire que Marine Le Pen tolère...
J'ai pas dit Marine Le Pen, hein, j'ai dit au Rassemblement National parfois.
Non, attendez, il y a aussi des gens dans d'autres partis qui tiennent des propos racistes, y compris à l'extrême gauche, à l'encontre de tel ou tel. Moi, je vous parle de Marine Le Pen, c'est elle qui est candidate à la présidentielle. Vous avez compris, j'essaye d'être raisonnable, de faire la part des choses.
Sauf que Robert Ménard, sur l'alliance des droites, au fond, que vous ambitionnez, la marque Le Pen s'est en quelque sorte constituée contre ça. C'est compliqué de mettre en place cette alliance des droites.
Et bien sûr, c'est compliqué. C'est pas compliqué que du fait de Marine Le Pen. Écoutez, quand j'entends Madame Pécresse ou Monsieur Xavier Bertrand dire il est impossible de travailler, en l'occurrence, avec un maire comme moi. Enfin, attendez, c'est absurde. Xavier Bertrand, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, et Dieu sait que j'ai fait du journalisme politique, mais il se fait, je le connais pas. Qui vienne voir à Béziers, un maire qui est élu avec combien presque 70% des voix comme je l'ai été, juste que...
Parce qu'il y a aussi un héritage, au fond, ceux qui sont aujourd'hui au Rassemblement National ou à l'extrême droite sans être directement au Rassemblement National sont aussi héritiers d'une histoire, et légitimement, la droite peut dire, on veut pas s'associer avec cette histoire.
Monsieur. J'ai passé 25 ans de ma vie à défendre des journalistes comme vous dans le monde entier parce que j'étais patron de Reporters sans frontières. Je vais avoir une leçon de morale, de droit de l'homme, de liberté, d'engagement, y compris physique, d'un certain nombre de journalistes ou d'hommes politiques. C'est une douce plaisanterie. Moi, je réponds à Xavier Bertrand et à d'autres gens des Républicains que si demain j'ai à choisir au deuxième tour si Xavier Bertrand est le candidat qui est au deuxième tour avant Marine Le Pen ou avant Éric Zemmour ou Madame Pécresse et qui se retrouve face au chef de l'État, je n'hésiterai pas une seconde à voter et à appeler à voter pour eux. parce que je ne confonds pas Xavier Bertrand et Monsieur Macron. Alors je propose juste à la droite de faire preuve d'un peu plus, d'un peu plus de discernement, pour prendre un mot pas méchant, et arrêter de renvoyer les gens à quoi ? À quoi eux, ils sont du côté de la liberté, moi je serai du côté des dictateurs. Qui a eu des ennuis parce que Monsieur Kadhafi était
l'invité de
Monsieur Sarkozy.
On va s'arrêter là. En tout cas, le Rassemblement National est plutôt allié avec des Orban et des Poutine pour l'instant.
Mais attendez, je mets pas Orban et Monsieur Poutine dans le même sac. Pardon, c'est tout à fait la même chose, et je l'ai dit 25 fois. Quand j'entends un certain nombre de gens protester, vous y faisiez allusion tout à l'heure, contre le pass sanitaire, vous savez, en disant oh, c'est une dictature qui se met en place, c'est juste absurde, surtout quand c'est les mêmes qui applaudissent à Monsieur Poutine. Permettez-moi de vous dire que sur Monsieur Poutine et sur la Russie, à la tête de Reporters sans frontières, et encore aujourd'hui, je dis des choses, et j'ai fait des choses que bon nombre de gens à droite n'ont jamais fait, n'ont jamais dit. Évidemment, Monsieur Poutine est un ennemi des droits de l'homme, Et lui, il met les gens en prison.
Merci Robert Ménard d'avoir répondu à nos questions. Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner, cela sort aujourd'hui aux éditions La Nouvelle Librairie. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Les 60 ans de la Convention de Genève sur le droit des réfugiés.
Nous sommes les héritiers d'une histoire, en effet. On aimerait être davantage héritiers de cette convention.
Le feuilleton, une semaine dans la vie des restaurateurs de Notre-Dame, les différents métiers, jusqu'à vendredi à la rencontre de ces spécialistes avec Rémi Brancato. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Une fois de plus, le prix du livre Inter est un succès de librairie. Le dernier en date, Un jour ce sera vide, édition Christian Bourgois, vient de passer le cap des 60 000 exemplaires vendus. Et son auteur, Hugo Lindenberg, est à votre micro, Frédéric.
Un jour ce sera vide, c'est le portrait d'un garçon de 10 ans qui se lie d'amitié avec un autre du même âge sur la plage pendant les vacances. Le bonheur insouciant de ce dernier le fascine. Lui, il est orphelin de mère et il vit avec sa grand-mère qu'il adore mais qui parfois lui fait un peu honte. Il y a autant de nostalgie que de lumière dans ce tout premier roman d'Hugo Lindenberg, qui a choisi de me parler d'une chanson de 1963, où là aussi, il est question de deux enfants, Mélo Cotton, Colette Mani, un morceau d'une minute 39.
Colette Mani a une manière de nous plonger comme ça dans une fiction. Elle dit Mélo Cotton et Boule d'Or, deux gosses dans un jardin, et ça y est, la scène est là.
Mélo Cotton et Boule d'Or, deux gosses dans un jardin.
Et après, on est plongé dans... vraiment quelque chose de très profond de l'enfance et qui est pas du tout une narration classique. Elle raconte pas l'histoire de ses enfants, mais depuis l'intérieur des interrogations de ses enfants, elle raconte leur peur de pas être aimée par leur famille ou les questions qui se posent sur leur place au sein de cette famille. Et donc c'est une succession de questions que pose un des deux enfants à l'autre. Et l'autre répond systématiquement « j'en sais rien ». Ce qui est une très belle réponse, mais viens, donne-moi la main. Il n'a pas de réponse pour rassurer son frère ou sa sœur sur l'absence de la mère ou est-ce que ils seront des adultes comme il faut. Mais par contre, il peut lui offrir la fraternité, l'amitié, c'est-à-dire il lui tend la main. Et c'est une chanson qui est bouleversante, justement parce qu'elle se passe du récit et qu'elle explore les émotions de l'enfance d'une manière vraiment très très puissante.
Mélo Cotton et Boule d'Or, deux gosses dans un jardin. Mélo Cotton, où est la maman? J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Dis, Mélo Cotton, tu crois qu'il nous aime?
Ma petite poule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Alors là, on a changé d'ambiance. C'est une reprise de cette chanson de Colette Mani, Frédéric.
Par Alain Leprest et Monique Froidevaux. Il y en a eu d'autres, des reprises par Catherine Ribeiro ou encore Axel Red, mais oui. Mais Hugo Lindenberg, c'est la version originale qu'il préfère.
Je crois que c'était sur un CD quand on faisait des mixtapes à l'époque. Un amoureux m'avait mis ça sur une compilation. Et c'est vraiment quelque chose qui vous arrive, cette chanson. Et après, elle reste en vous d'une manière vraiment... profonde. C'est une très belle chanson. Mais j'étais étonné en la re-regardant. Là, j'ai vu sur YouTube, dans les commentaires, quelqu'un a dit « Ah, j'adore cette chanson, elle me donne la pêche. » Alors bon, moi, c'est pas du tout ce qu'elle me fait, mais elle me remplit de bonheur quand même.
Elle est très courte, cette chanson.
Elle est très courte. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire un truc comme un coup de poignard, mais c'est très violent comme un coup de poignard. Il y a quelque chose comme ça de fulgurant dans cette chanson.
Avec très peu de mots.
Avec très peu de mots. Mais en fait, on est en deçà des mots. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'émotion pure.
Kérine, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Cette chanson-là, ça pourrait être la bande-son de votre livre?
Complètement. En tout cas, j'y ai beaucoup pensé à cette chanson pendant l'écriture de mon roman. Et d'ailleurs, je suis content que vous me donniez l'occasion d'en parler. J'ai l'impression de réparer une erreur qui était de ne pas avoir jamais parlé de Colette Mani durant les interviews. J'ai essayé humblement d'exprimer quelque chose que Colette Mani exprime de manière magnifique dans cette chanson.
Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Mélocotone de Colette Mani, c'était donc Frédéric Le Choix d'Hugo Lindenberg.
Prix du Livre Inter 2021 pour Un jour ce sera vide, son premier roman publié chez Christian Bourgois éditeur.
À demain.
À demain.
Le feuilleton, une semaine dans la vie des restaurateurs de Notre-Dame. Ils sont sculpteurs, charpentiers, échafaudeurs et tous les autres. Ils présenteront leur travail le week-end prochain lors des journées du patrimoine. C'est l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale qui met en avant les acteurs du chantier. Nous sommes 2 ans et demi après l'incendie et les premiers avec qui Rémi Brancato a parcouru le chantier, ce sont 2 échafaudeurs, Régis Jäger et Julien Sieslac.
Pratiquement 1000 tonnes d'échafaudages posées entre la nef, le chœur, le transept nord et le transept sud. Aujourd'hui, c'est une cathédrale d'acier dans la cathédrale. Donc, moi, je suis Régis Jäger, responsable d'exploitation au sein de l'entreprise Europe Échafaudage.
Et moi, je m'appelle Julien Sieslac, je suis chef de chantier sur le chantier de Notre-Dame.
Une des grosses étapes de ce chantier, ça a été la dépose justement de cet échafaudage sinistré, celui qui a été endommagé par l'incendie, qui a fondu.
Après l'incendie, l'échafaudage était totalement suspendu sur ses appuis. Il a fallu déjà dans un premier temps cercler l'échafaudage avec des poutres pour éviter en fait qu'il s'effondre à l'intérieur. On a sécurisé l'échafaudage pour le redémonter en toute sécurité.
Je voudrais juste qu'on avance un tout petit peu. On a à environ 30 mètres au-dessus de nous ce trou béant qui est aujourd'hui recouvert d'un parapluie à l'endroit où se dressait la flèche de Viollet-le-Duc. Ici, devant, les voûtes sont endommagées. Il a fallu installer un échafaudage pour pouvoir intervenir sur ces voûtes endommagées.
On a monté un échafaudage de 26 mètres de haut avec un platelage haut. Ce bel échafaudage, parce qu'un échafaudage, ça doit être solide, mais ça doit aussi être beau. C'est un très beau métier. Moi, j'invite tous les gens courageux qui sont prêts à travailler dans un métier passionnant à venir nous rejoindre.
On a un exemple de ce courage, c'est Julien. Vous travaillez chez Europe Échafaudage depuis 4 ans.
En gros, moi, j'ai démarré chez Europe Échafaudage vraiment tout en bas de l'échelle. Quand je montais à la haut, j'avais peur.
Qu'est-ce que vous réalisiez au tout début, les tâches qu'on confie à un jeune échafaudeur qui débute dans le métier?
Ah bah c'est apprendre le matériel, il faut ranger les palettes, il faut apprendre à charger un camion. Ça fait partie de toutes les bases du métier qui sont aussi très importantes sur n'importe quel chantier au final. Parce que quand vous êtes sur la route, je pense que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un camion qui est mal chargé devant vous. Vous en rendriez vite compte.
Quand est-ce que vous êtes arrivé sur le chantier de Notre-Dame, vous, Julien?
J'ai dû intervenir sur le chantier quelques jours après l'incendie parce que j'étais sur un autre chantier initialement et on est arrivé avec toute l'équipe et pour aider à la reconstruction. On voyait vraiment tout le monde qui était un peu déboussolé parce que franchement c'était un sacré événement. Ça a fait peur à beaucoup de monde, c'était impressionnant. Nous, on a intervenu sur toutes les pierres qui présentaient un risque de chute. On a aussi intervenu sur la dépose des vitraux. Il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver à la dépose de l'échafaudage incendié quand même.
Vous avez participé ensuite au montage de ces échafaudages impressionnants qu'on voit ici à l'intérieur de la cathédrale. Là, c'est un travail qui a été important. Quel rôle vous avez joué dans cette étape-là?
Moi, à ce moment-là, j'étais plus dans la gestion des équipes. Et on tourne en 2-8 pour le montage, pour essayer d'optimiser le temps, justement, pour arriver au plus vite à ce qu'on a là actuellement, c'est-à-dire une dame de fer. Ça fait plusieurs camions à faire livrer, de jour, de nuit, enfin, il y avait vraiment énormément de boulot et il y avait beaucoup de monde à gérer. On ressent une certaine fierté de se dire qu'on est là depuis 2 ans et demi et qu'on n'est pas prêt d'avoir fini. Il y a encore beaucoup de boulot.
Aujourd'hui, à notre niveau, on a respecté nos engagements et les délais qui avaient été des fois très optimistes, notamment pour les intérieurs. Il y a des fois où on est en réunion, on se regarde et on se dit voilà, ça va être serré, on n'a pas le droit à l'erreur. Et bien voilà, c'est justement le rôle qu'on a, notre directeur, moi et Julien, d'organiser le tout. Et c'est un défi que chaque personne dans l'entreprise a relevé, jusqu'à la secrétaire, la comptable, voilà, tout le monde est sous pression puisque ça demande beaucoup de travail.
Les ouvriers de Notre-Dame, une semaine dans leur vie avec Rémi Brancato, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
En 1951, c'était l'adoption de la Convention de Genève sur le droit des réfugiés. Il y a donc 70 ans précisément, et non 60. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean Lebrun, c'est un anniversaire que notre époque, dites-vous, ne songe pas vraiment à célébrer.
On peut même avoir l'impression que beaucoup des efforts mis en œuvre après la catastrophe de la Deuxième Guerre relèvent, hélas, d'une époque révolue. Alors prenons le cas de la France. Elle avait l'expérience des réfugiés. 1 million en 39 sur 41 millions d'habitants. Enfin, les réfugiés ont eu l'expérience de la France, y ayant traversé des expériences diverses. Dès 1946, le préambule de la nouvelle Constitution, repris dans celle de 1958, établit le principe du droit d'asile constitutionnel, mais aussi droit d'asile conventionnel. En 1951, la France signe, et sa signature l'engage devant le monde, la Convention de Genève sur le droit des réfugiés. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Dans les décennies qui suivent, ces textes gagnent en précision. Les réfugiés ne sont plus considérés seulement comme appartenant à des blocs de population, mais comme des individus qui peuvent d'ailleurs risquer d'autres persécutions que celles des États. Et des structures spécialisées sont mises en place à l'international, le Haut Commissariat aux réfugiés, 1950, au niveau national, l'OFPRA, 1952, puis la Commission de recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile.
Mais depuis au moins une vingtaine d'années, les opinions occidentales ont changé de regard.
Oui, ben nous autres journalistes n'y sommes pas pour rien. Quand nous nommons les choses, allons-nous parler d'abord, par exemple, de drame afghan ou bien de crise migratoire? Si nous faisons ce deuxième choix, le débat va se dérouler comme ceci. Oh là là, l'asile pourra être massivement attribué aux Afghans qui fuient les talibans, et si on applique exactement les critères de la Convention de Genève, une dangereuse machine à les accueillir va se mettre en marche.
L'idée qui progresse, c'est celle d'un nouveau pacte migratoire qui ferait converger les droits nationaux que les différents pays ont conservés en la matière.
Comme vous dites, dès 1997, le traité d'Amsterdam évoquait une politique migratoire commune. La Convention puis les règlements de Dublin sont allés dans ce sens. Rappelons qu'ils contraignent les demandeurs d'asile à effectuer leur démarche dans le premier pays de l'Union auquel ils parviennent, ce qui ne leur permet pas de bénéficier des meilleures chances et qui fait peser un poids excessif sur les pays de la rive droite de la Méditerranée. Dublin serait toujours dépassé.
Il faudrait intégrer la politique d'immigration dans les relations de l'Union avec les pays tiers. Ça veut dire quoi?
Ben nous en sommes par exemple à proposer à des États tiers la délégation du contrôle des réfugiés que nous préférerions ne plus faire à l'intérieur des frontières de l'Union. Cette délégation peut être confiée à des pays et à des gouvernements, quand ils en ont, comme la Libye, qui ne partage pas les valeurs européennes, au risque de leur confier des moyens de pression dangereux. Rabat, récemment, mécontent que Madrid ait accepté de soigner un opposant sahraoui, a relâché brusquement vers sa frontière espagnole des milliers de réfugiés. On a du mal à croire, et pourtant c'est vrai, que le Danemark veut déléguer son pouvoir de contrôle au Rwanda, avec à la clé un camp de transit peut-être au pays des mille collines. Après ce qui s'est passé au Rwanda, il faut de l'amnésie de la part du gouvernement social-démocrate de Copenhague et une bonne dose de calcul chez le président rwandais pour négocier ce genre de protocole. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU vient de déclarer qu'au moment de l'anniversaire de la Convention de Genève, tant de petites manœuvres soient déployées pour en affaiblir les principes et l'esprit. Et il conclut, c'est sans doute une ironie de l'histoire.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. La chronique porte particulièrement bien son nom. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Bruno.
La Terre au carré. Quel est le programme?
Eh bien, nous partons en Guyane française pour étudier la question de l'orpaillage clandestin.
Allez, à tout de suite.